puisque nous sommes en compagnie de Jacques Weber. Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
Je vous ai invité un lundi de Pâques pour offrir un cadeau aux auditeurs. On s'est dit que la parole d'un grand acteur était une bonne manière de se réveiller en ce lundi de Pâques. Et puis, on a songé à Notre-Dame, on a songé à Victor Hugo, puisque actuellement, votre spectacle Hugo au bistrot jusqu'au 10 juin, et vous donnez à entendre ces mots que vous appréciez particulièrement. Peut-être d'abord une réaction sur ce comédien, parce que cet homme, Vladimir Zelensky, est un comédien.
Ce qui est assez préoccupant d'abord, c'est que le cas n'est pas unique, puisque de plus en plus, il y a un déséquilibre entre ce qui a toujours existé dans la communication politique, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de la représentation. La démocratie est née en même temps que le théâtre. Le théâtre était un instrument de propagande et pour les religions et pour les politiques. Mais maintenant, on a une inversion. C'est-à-dire qu'il faut être, entre guillemets, avoir une parole orale, c'est-à-dire une parole sale, un peu mal réfléchie, sans distance, pour toucher le... Comme disait Hugo, faisons la différence entre la foule et le peuple. Et pour toucher une espèce de nébuleuse qui serait la foule. Et ce phénomène qu'on retrouve là-bas, on le retrouve aussi bien dans une hyperpuissance comme Trump. Trump, ou Reagan avant, mais Trump est une espèce de Reagan non comédien, mais c'est la même chose, c'est le même phénomène. Et je dirais presque aussi, alors en Europe bien évidemment, ce sont des espèces de type un peu mauvais acteur, trombone, comme on dit en Italie.
Ça veut dire quoi?
Trombone, ça veut dire acteurs qui en font des tonnes.
Mais très vous trouvez que les politiques en font des tonnes, généralement?
Ce sont tous des très mauvais. Et j'en prends pour dernier exemple, notre président de la République qui prend un ton de Mater Dolorosa pour parler de Notre-Dame, c'est tout à fait affligeant, c'est tout à fait redondant et très incommodant, franchement. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve ça
pourquoi
très dérangeant. Incommodant parce que lorsque d'un seul coup on privilégie cet incident extrêmement bouleversant, symbolique et touchant, on le privilégie de cette façon, avec autant d'émotion, avec autant de lyrisme un peu de pacotille par rapport aux vrais enjeux à l'heure actuelle, à ce déséquilibre bouleversant dont parle Hugo. Tout le monde nous parle d'Hugo à propos de Notre-Dame. Et comme l'a dit très très justement Gilet Jaune, parlons des misérables. Je trouve que tout ça est va tout un peu dans le même sens, c'est-à-dire que ce qui est maintenant totalement déséquilibré, c'est la représentation des choses. C'est un peu comme le selfie. Les gens vont en concert, mais ne prennent pas le direct, ils prennent le selfie du concert. Enfin, voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît dans les mots d'Hugo, Jacques Weber? Pourquoi avez-vous décidé de les dire dans Hugo?
Alors, j'ai décidé de les dire justement parce que j'ai découvert que tous les politiques, à bon escient ou à mauvais escient, d'ailleurs, jouaient, s'étaient servis copieusement d'Hugo. Je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi à ce point-là? Or, en fait, c'est assez simple, c'est plus ou moins de bonne foi ou de malhonnête. Parfois, ça l'est, honnête. Mais il y a chez lui, d'abord, comme chez tous les très grands auteurs populaires, il y a une rébellion, il y a un refus permanent de la fatalité d'un état social ou politique. Et deuxièmement, enfin, particulièrement dans la seconde partie de son existence, mais quoique ça demande des nuances, mais d'autre part, et je crois que c'est ça le plus important, c'est le souffle. C'est-à-dire que dans tout ce que donne Hugo, dans une langue extrêmement charpentée, extrêmement claire, extrêmement directe, qui s'empare du quotidien vraiment à pleine main, avec des mots très forts, très très musclés, des mots de menuisier, de forgeron, il y a tout le temps ce souffle incroyable qui emmène et qui nous manque beaucoup en ce moment.
Donnez-nous des exemples justement de ce souffle d'Hugo, Jacques Weber.
Vous me prenez un peu à brûle-pourpoint, mais
le souffle qui parcourt les misérables dans ces personnages.
Je prends un exemple un peu moins connu qui est dans Chose Vue. Il s'empare d'un fait divers qu'on appelle justement un chien écrasé. Les faits divers étaient appelés des chiens écrasés. Et il raconte donc l'histoire toute bête d'un chien qui se meurt parce que son maître n'est pas là. Et à la fin, il dit, et j'ai vu le maître a murmuré son nom. Le chien a relevé ses yeux sombres, etc., et est mort. Et puis à la fin, il dit, c'était l'heure où, dans la nuit, telle une torche, Vénus luit, et j'ai dit, d'où vient l'astre, où va le chien? et cette espèce de grande tension qui est faite cosmologique comme ça entre l'univers et le fait divers, ça c'est tout Hugo. Quand il dit à propos de Valjean, pauvre vieux cœur tout neuf, on ne peut être que bouleversé, usé par l'émotion de cette phrase. C'est magnifique. L'abolition de la misère. Le discours de la misère, vous n'aurez rien. Ça, on devrait l'entendre maintenant quand il termine en disant vous avez fait des choses considérables, vous avez maintenu l'État, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Et ça, c'est formidable. Redonnons la lumière au peuple, car c'est par les ténèbres qu'on l'abrutit. Enfin, tout ça, il y a quelque chose de... Bon, là, j'ai une mémoire de matinale, mais c'est très troublant.
Dans Notre-Dame, il y a aussi, malgré tout, une passion. Alors, une passion pour les humbles, ça ne quitte pas Hugo. Ouais. Il y a aussi un souffle religieux, quasi mystique.
Ouais, ce qui ne le quitte pas, d'ailleurs, plus mystique que religieux chez Hugo, hein, puisque dans son testament, il dit « c'est Dieu, l'âme, Dieu ». Il est très très obsédé par la présence de Dieu, mais je pense par contre que sur les religions, il a la distance nécessaire, je crois. Je crois que Notre-Dame, c'est un petit peu, c'est peut-être un peu excessif, ça mériterait des nuances, mais je crois que c'est un peu le Salammbô de Flaubert. C'est-à-dire, je trouve que le Notre-Dame est très... très épique, très lyrique, très très historique, très, j'irais presque dire nostalgique, alors même que Les Misérables est une chose vraiment ancrée dans le réel, quoi. Mais avec ce souffle que n'ont pas ensuite les auteurs réalistes du 19e, aussi géniaux soient-ils.
Bon, d'une certaine manière, c'est lui aussi qui le premier à sauver Notre-Dame. Victor Hugo, en écrivant Notre-Dame de Paris, à une époque où il pouvait être question de raser la cathédrale.
Oui, je crois, c'est lui. Oui. Mais d'ailleurs, mais alors en même temps, il a fait ça, puis en même temps, il a gueulé comme un fou sur la Tour Eiffel. C'est ça qui est assez
amusant. Bon, ça veut dire qu'on n'est pas forcément compétent ni sur son époque, ni sur tous ses choix architecturaux. Le fait de vouloir dire Hugo, est-ce qu'aujourd'hui, dans une société qui est de moins en moins mystique, qui est accusée d'être de plus en plus matérialiste, est-ce que c'est facile de lui donner un sens, de donner à entendre à un public?
Vous savez, j'ai du mal, moi, très honnêtement, je pense pas que le théâtre ne puisse être une seule minute militant, ça ne veut pas dire grand-chose. Il ne peut que poursuivre ce que fait la littérature et les arts, c'est poser des questions. Et ne jamais accepter trop rapidement de réponses et des questions qui forcément sont rebelles. Pourquoi dire du Hugo, on pourrait d'ailleurs me le reprocher, puisque moi je reproche parfois d'être trop obnubilé par ce qui est assez confortable. Je remarque que lorsqu'il s'agit de Molière, de tous les grands auteurs classiques, très souvent on entend « Mon Dieu, comme c'est moderne !» C'est formidable, tellement c'est moderne. Mais oui, mais cette façon de recaser la modernité dans la lanterne magique que nous offrent les textes passés, c'est extrêmement dangereux, voire confortable. Donc je m'accuse moi-même de ces mots. Cependant, quand on reprend la langue d'Hugo, et qu'on lui redonne cette espèce de chair à vivre, de tripe, de violence incroyable dans son invectivation, je trouve que c'est quand même intéressant. Je vous prends un exemple, et ça c'est très important. À un moment donné, je dis le discours de la misère, et Hugo lui-même, et il m'est arrivé un événement formidable, Hugo lui-même dit « mais je ne vous parle pas au Moyen-Âge, je ne dis pas en Irlande, je dis en France, ici, à Paris, maintenant ». Détruire la misère, l'abolition de la misère. Je voudrais qu'une âme magnifique, pas minorité, majorité, n'importe ça, c'est lyrique. Et à un moment donné, je me suis dit, puisqu'il dit ça, faut à tout prix que je trouve un fait divers. Il dit, voici des faits divers, faut que je trouve un fait divers actuel. Et j'ai inséré un texte de Philippe Claudel qui avait, pour le journal 1, qui est un bon journal, entre parenthèses, qui avait regroupé des témoignages de smicards. Et c'est d'une logique imparable et c'est absolument bouleversant. Alors, il y a des gens qui applaudissent, d'autres gens qui gueulent, et d'autres gens qui disent, cette improvisation est scandaleuse, ça n'a rien à voir avec Hugo. Mais vous savez, monsieur Hugo, quand même, c'est vraiment très moderne. Donc, vous voyez, là, on est dans une équivoque absolument incroyable. Qui, je crois d'ailleurs.
Mais ça veut dire quand même que vous n'avez jamais hésité à, dans votre théâtre, dans les différents rôles que vous avez tenus, bref, dans vos activités en matière artistique.
Mais je ne peux pas hésiter. Je crois que je ne peux pas hésiter à laisser Je crois que c'est une affaire, très bêtement, je vous prie de m'excuser, mais c'est une affaire de cœur. Le cœur bat quand on joue. Hein. S'il ne bat plus, s'il n'est qu'une espèce de tête posée sur une nébuleuse qui serait le corps, une sorte de Pierrot gourmand ou de Pierrot lunaire, c'est assez désagréable. Il y a des acteurs comme ça, bon, bah, très bien, moi je ne suis pas de ceux-là. Moi j'aime bien quand tout le corps s'engage. C'est notre boulot, c'est notre fonction dans le texte et dans sa chair. Mais on ne peut pas exclure de la chair du texte d'Hugo sa virulence à l'égard d'une société totalement inégale et injuste. Quoi, voilà.
Et alors, lorsque vous jouez par exemple du Molière...
Molière c'est pareil, hein. Molière est un rebelle absolument considérable. Molière, je pense, est beaucoup plus du côté des désordonnateurs, c'est-à-dire de Tartuffe, de Don Juan, d'Alceste, et encore Alceste c'est équivoque, que des familles bourgeoises dans lesquelles ces gars démolissent tout.
Mais alors, il le fait au travers d'un théâtre qui évoque moins directement la question sociale. Ça n'est évidemment pas Hugo, ça n'est pas ni la même époque, ni la même manière de voir. Quand vous jouez du Molière, Jacques Weber, qu'est-ce que vous appréciez et comment envisagez-vous ces pièces?
Alors, j'ai toujours, mais peut-être, parfois je réfléchis, je me dis c'est parfois une excuse et une pirouette, mais je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit pour que l'arbre bourgeonne, il faut des racines. Donc on a toujours besoin quand même de ce retour à des espèces de points de repère, en tout cas qui sont les miens. Humblement, ce sont les miens. C'est ma culture et c'est ça que je peux, à mon âge, puisque maintenant il s'agit à mon âge de transmission, et non plus que de rébellion. Et c'est ce que je peux transmettre bien. C'est un artisanat que je connais bien. À partir de là, Molière, c'est aussi un auteur social. Ô combien Planchon et tant d'autres nous l'ont montré depuis extrêmement longtemps, derrière les dentelles, derrière l'encore, la représentation d'un 17e totalement falsifié d'ailleurs, il y a quelque chose d'éminemment social, révolté, révolutionnaire même, je crois. Et ça, c'est une des choses qui me plaît beaucoup à essayer de trouver. En même temps, je pense que la fonction de l'acteur, c'est toujours se situe à l'angle de l'histoire intime d'un personnage, mais qui est toujours un autre que le personnage, qui est un mélange entre vous, le texte, et le personnage soi-disant. Et puis, la grande histoire, la petite histoire et la grande histoire, c'est ce qui nous arrive à tous. Nous sommes tous confrontés tous les jours, à notre histoire intime et à la grande histoire. Et c'est ça qui fait une bonne interprétation, je crois.
Mais alors, lorsque vous êtes, par exemple, Don Juan, Jacques Weber,
alors, comme disait... Je crois que Jeanne Moreau avait dit, mais Don Juan n'existe pas, c'est ça qui est difficile pour un acteur. Et elle avait, Dieu sait si elle avait raison.
Pourquoi?
C'était absolument magnifique. Mais parce que c'est un mythe en plus extrêmement récent, c'est compliqué. Donc il va falloir, lorsqu'on nous le joue, surtout dans l'exposition à l'échec qui est représentée dans l'œuvre de Molière, c'est tout à fait troublant d'aller chercher l'homme dans tout ça, d'aller chercher cette préoccupation permanente et du désir et de la mort, quoi. Voilà, pour être sommaire et schématique. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Mais il y a, moi, dans ce cas-là, lorsque tout ça me semble tellement vaste et énorme, il y a un moment où je me réfère à la partition. Alors ça, c'est mon travail à moi. Mais une partition, c'est aussi beau que les mathématiques. Enfin, ça aide énormément.
Et puis alors toujours dans la dénonciation d'une manière ou d'une autre de la comédie sociale, vous appréciez beaucoup Maupassant, vous avez joué Bellamy, Jacques Weber, et peut-être rappeler en quelques mots aux auditeurs qui ne s'en souviendraient pas ce que raconte Bellamy.
Bellamy, c'est un réussite. Bernard Tapie du 19e siècle, en fait. C'est une horreur, mais une horreur qui nous fascine et qui nous bouleverse. Pardon pour Bernard Tapie en disant une horreur, mais enfin, c'est une espèce de façon d'arriver comme ça, terrible, affairiste. Et là, la comparaison s'arrête là, mais après, c'est un homme qui arrive par les gens qui ont réellement le pouvoir, qui sont les femmes dans le milieu parisien. Et finalement, on se rend compte que ce double mouvement du bouquin qui nous fascine dans son succès rapide, immédiat, brillant, en même temps creuse une fosse absolument effrayante. On rentre dans la pire des horreurs, l'horreur de l'arrivisme, de la mondanité parisienne, de tout ça. Ça, pour moi, c'est un des très, très grands livres avec une vie. Une vie, je pense que c'est le chef-d'œuvre absolu.
Pourquoi ? Racontez-nous ce qu'une vie.
Une vie, on a l'impression d'un couple qui va être merveilleusement heureux et par des infinis détails, toujours chez Maupassant, des glissements, des petits dérapages que nous connaissons tous dans nos journées, les choses s'effritent, se gangrènent et on arrive à la chose la plus... on arrive vraiment à l'horreur de l'existence. Mais chez Maupassant, c'est assez noir.
Oui, c'est très troublant. C'est un homme plutôt pessimiste, au contraire d'Hugo d'ailleurs. Bah parce que tout Hugo, c'est... Je ne suis pas certain qu'il y avait beaucoup de mysticisme chez Maupassant.
Non, Maupassant, non, il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas d'au-delà, je ne crois pas. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs. C'est dans ses idées détails, c'est complètement effrayant. Il dit qu'il n'y a rien autour de ce petit détail.
Et oui, alors du coup, c'est assez immoral, puisque par exemple, Georges Duroy dans Bel Ami n'a nulle punition. C'est même pas le don de Molière.
C'est pire, c'est qu'il est honoré. Cette fameuse église dont nous parlons tant et dont on se targue tant, où on enterre nos célébrités du rock'n'roll, d'ailleurs.
La Madeleine.
Beaucoup la Madeleine, voilà. C'est là où le bouquin se termine et il épouse la fille de sa première maîtresse qui l'a fait réussir dans Paris. C'est d'un cynisme absolument.
Ce n'est pas très moral, non, effectivement. Non. Jacques Weber, on se retrouve dans quelques minutes. Vous serez rejoint par quelqu'un que vous connaissez bien, José Dayan, la réalisatrice. On continuera d'évoquer Hugo, elle a tourné
bien,
Les Misérables.
Elle a eu des monstres pour le jouer, donc tout va bien.
on en parle dans quelques instants, Jacques Weber. Je rappelle votre spectacle qui sera joué jusque dans quelques semaines. Je cherche le 10 juin, Hugo au bistrot.
Voilà. Dans des bistrots, spectacle. Dans des salles de théâtre, un peu partout. Voilà, j'aime bien.
Il est 8h sur France Culture. Moi, je vais faire réagir à ce biais politique consacré en partie à la célébrité. Vous aviez en face de vous un acteur, Jacques Weber. Celui-ci donne un spectacle Hugo au bistrot jusqu'au 10 juin avec des textes évidemment de Victor Hugo et publie l'entrée des mots aux éditions de l'Observatoire où vous racontez vos débuts, les raisons pour lesquelles vous aimez ce métier d'acteur, Jacques Weber. Et nous accueillons José Dayan, la réalisatrice. Bonjour. Bonjour José Dayan.
Bonjour.
Votre réaction justement à ce que vient de dire mon camarade Frédéric Seitz, vous qui avez l'œil cinématographique.
Mais j'ai beaucoup ri sur sa chronique. J'ai trouvé très brillante d'ailleurs. Et puis c'est vrai que c'est hallucinant ce qui se passe en politique parce que cette histoire de Trump, de l'Ukraine, etc. Bon, ouais. Je ne sais pas moi, ce qui va se passer, mais
justement dans une période fait, parce absolument. Que ça doit quand même vous toucher, José Dayan. C'est un acteur qui tournait dans une série à succès, et vous avez fait énormément de séries à succès en France.
Ouais.
Monte Cristo, Les Misérables, Capitaine Marlowe, qui est actuellement une série qui cartonne à la télévision, et le fait qu'un acteur qui joue donc un prof qui devient président de l'Ukraine, donc ça c'était dans la série et cette série est devenue réalité. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Mais ça dépend, moi je ne connais pas la série de cet acteur en Ukraine, je ne connais pas cet acteur, j'espère qu'il dirigera bien son pays, de toute façon qu'il pour l'instant est dans une situation un peu apocalyptique. Maintenant, si on se réfère, comme vous le disiez tout à l'heure, à Beppe Grillo, ça va être catastrophique. Donc il suffit pas d'être acteur pour être bon président, mais c'est peut-être pas si mal que ce soit un acteur. Mais en tout cas, Beppe Grillo, c'était un peu catastrophique pour moi.
On dit qu'Yves Montand avait caressé l'idée un instant.
Ah oui, très sérieusement, oui, c'est Simone qui l'a remis en place un peu. À un moment, il a fait ses fameuses émissions sur l'économie où il avait dit, moi, j'ai trouvé la solution. Et puis là, Simone a dû lui dire, bon, mais il s'est pris un peu le truc. Non, mais je crois que ça, ce déséquilibre s'accentue de plus en plus et que quand vous parliez de l'entrée, les videurs d'une boîte de nuit,
ça,
j'ai l'impression que la démocratie est hélas devenue une grande boîte de nuit, quoi. C'est une chose tellement assombri, perverti, abîmé dans sa représentation, que on va avoir de plus en plus droit à ce à deux mouvements qui sont parallèles et en même temps qui se ressemblent beaucoup. D'une part, l'élite politique qui s'éloigne de plus en plus du peuple, et de l'autre part, la représentation politique que l'on refuse et qui est donnée à des gens qui ne peuvent pas représenter. Donc il y a aussi un éloignement. Le type, le comique, le clown qui chez Shakespeare a raison, hein, ne l'oublions jamais, mais celui qui prend ce pouvoir-là, d'un seul coup il est hors de sa place et d'un seul coup il ne peut plus représenter. Donc le peuple est tout seul. Il ne peut plus être représenté ni par les politiques ni par les clowns qui sont de plus en plus fréquents.
Frédéric Seitz, ce qui est intéressant aussi et eu égard à la position que vous occupez tous les deux, c'est de voir que les artistes sont parfois aussi de moins en moins à écouter en politique. Il y avait une grande mode des comités de soutien dans les années 80-90. Bon. Exactement. Et maintenant, on a l'impression qu'ils ont plus de mal à s'engager ou qu'on les écoute peut-être
moins.
Alors
moi, là-dessus, je suis très méfiant parce que j'ai des camarades qui ne veulent pas s'exprimer, et je comprends très très bien. Bon, moi, il se trouve que
vous étiez engagé pour Jean-Luc Mélenchon,
ainsi. Et puis maintenant, j'y crois beaucoup moins même. Je trouve un peu,
pourquoi
parce que je trouve qu'il est devenu excessif et que son moi l'emporte un peu plus, un peu trop à mon avis. Mais je trouve que, par contre, ce dont je me souviens, José doit se souvenir aussi de ça, c'est que quand on engueulait Montand et Signoret d'être trop politisé, on oublie que personne leur avait demandé de se lever à 6h du mat pour être devant l'ambassade des États-Unis et se bagarrer pour des causes aussi lointaines que le Vietnam, puis ensuite pour des causes très très réelles comme la place des ouvriers en France. Donc je veux dire que moi je respecte les deux. Je respecte le silence, je respecte aussi la personne qui s'engage et qui en tant que citoyen s'exprime.
Moi j'ai souvent entendu à l'occasion d'émissions, soit à la télévision, soit à la radio, etc. Puis même en ayant la chance de tourner avec Jacques Weber, qui est un immense acteur, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait que ce soit un très grand acteur, ses positions affirmées politiques. Il a toujours été concerné par la politique, donc c'est logique qu'il puisse en parler, qu'il en parle bien. Moi, je ne suis pas du tout politisé comme lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fiction. Donc, allons dans une politique fiction, et puis voilà. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas apte, si vous voulez, à parler, je pense, intelligemment de politique. Voilà. Simplement, je suis un peu d'accord avec lui quand il parle des dérives de Mélenchon. Ça, je pense qu'il y a une vraie dérive.
On va parler de fiction avec vous, José Daillon, et avec Jacques Weber. Juste une dernière chose, Capitaine Marlowe, c'est une série qui marche extrêmement bien, je le rappelle aux auditeurs s'ils l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a une actrice qui incarne le rôle titre Corinne Maciero et celle-ci a manifesté, sa désapprobation par rapport à la politique d'Emmanuel Macron et ça fait énormément de bruit. Et c'est quand même quelque chose, là aussi, qui est un trait d'époque, José Daillon, que l'avis d'une actrice qui était un avis assez entier, puisqu'il faut dire aux auditeurs que c'est une femme assez entière, qui ne mâche pas ses mots, le fait que cela dénote et que cela crée autant de répercussions.
Oui, mais parce que d'abord, elle a une popularité absolument hallucinante avec cette série Capitaine Marlowe. Personne ne s'attendait à ce qu'on ait plus de 8 millions de spectateurs. Donc, si vous voulez, elle a une personnalité tellement forte.
Il faut juste rappeler qu'elle joue une enquêtrice.
Elle joue un capitaine de gendarmerie. Mais à la fois, elle a mis beaucoup d'elle dans ce personnage et elle est assez révoltée, si vous voulez. Elle est, en revanche, très concernée politiquement et évidemment en opposition au pouvoir actuel, mais à mon avis, à tout pouvoir.
C'est une femme qui a connu des hauts et des bas, surtout des bas dans sa vie, qui est finalement assez représentative de ce moment que traverse la France avec les Gilets jaunes, peut dire ça ?
Absolument, oui. Elle tombe au bon moment, voilà. D'ailleurs, c'est étrange les espèces de moments comme ça qui anticipent. Quelque sorte. Vous voyez, elle a fait un film qui s'appelait Les Invisibles, qui a été tourné il y a un an. Ce film est sorti au moment des Gilets jaunes. Bon, ça s'appelle des coïncidences miraculeuses, en fait.
Ouais, mais ça veut dire que la série aussi que vous tournez avec elle, donc Capitaine Marlowe, c'est une série qui se passe dans la France rurale.
Oui, mais la mienne est encore plus miraculeuse. Elle a existé il y a 3 ans, donc vous voyez, quelle prémonition. Oui.
Ça veut dire que il y avait effectivement un accord, une harmonie avec ce que traverse la France. Ça veut dire que Jacques Weber, les acteurs ont beaucoup de pouvoir finalement.
Oui, il ne faut pas l'exagérer, mais il y a parfois des rencontres qui témoignent que ça peut être extraordinairement important et qu'on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire, ce type d'événement comme Marlowe qu'on voit à quel point l'acteur est important. Mais vraiment, c'est considérable. Mais ça ne peut être important que s'il y a un phénomène culturel permanent de théâtre, de représentation télévisuelle, etc. Mais Marlowe, ce qui me frappe complètement, alors que je suis pas un fanat des séries policières la plupart du temps. Pourquoi? Parce que il faut des résumés de 10 minutes pour nous dire ce qui s'est passé et c'est un ton formaté absolument effrayant et c'est du flingue et du flingue, mais elle amène une note tout simplement où les gens se retrouvent complètement, sa façon d'être habillée, de parler, en plus je crois qu'elle improvise,
elle est souvent coiffée d'une chapeau, elle improvise quelques fins de réplique, ouais, et elle a une inventivité formidable,
c'est très près, très près.
On va écouter un extrait de cette série qui est à mon avis très représentative de cette France des gilets jaunes.
Il y a le gendarme, le spécialiste de parachutisme qui veut vous parler.
Un para? J'espère qu'il a pas ramené la GIGN. Alors, ça dit quoi?
Ça dit sabotage, capitaine. Ni la voile principale, ni celle de secours ne se sont ouvertes. Et le N-Deploy n'est plus dans sa pochette. Les poignons étaient bloqués, et il y a eu défaillance du déclencheur.
Jeannette, tu vas me chercher un traducteur?
Un traducteur de quoi?
Bah, traducteur tertiel. Allez, vas-y.
Allez, va en plus.
Jeannette, porque te vas, reviens, il va nous faire la traduction, Bijard.
Le N-Deploy, c'est un petit parachute extracteur. Le parachutiste sort le N-Deploy, le lâche comme ça, il s'envole, ce qui tire la sangle, qui elle-même tire le parachute, qui s'ouvre.
Paf. Et paf, le chien, là, ça s'est pas ouvert.
Non.
Quelle horreur.
Mais oui, quelle horreur.
C'est un boulot de pro, hein. La sangle a été coupée au ciseau. Et je suppose que le saboteur a dû faire pareil sur le parachute de secours, puisqu'il n'est pas sorti non plus.
Sabotage. Sabotage égale préméditation égale meurtre. Bon, on appelle le proc à Jeannette.
Oh là là.
Je voulais faire entendre un extrait de votre série. C'est l'une des, sinon la plus regardée actuellement en France. Ouais. José Dayan, qu'est-ce que ça raconte cet épisode? C'est l'épisode 7 de la première saison.
Je crois, là, je viens de reconnaître la voix de Julie Depardieu. Donc je pense que c'est un épisode avec Charles Berling et Géraldine Pellas, parce que je ne sais plus exactement à quoi correspondent les numéros d'épisodes, vous imaginez bien.
J'imagine bien.
Voilà, bon bref, donc ça c'est une enquête sur une espèce de meurtre dans une école de pilotage. Et en vérité, si vous voulez, dans Capitaine Marlowe, ce qui est intéressant, ce sont pas tellement les enquêtes, évidemment elles existent, mais c'est les rapports humains. Et c'est ce que moi j'ai voulu dans cette série, c'est ce que disait un petit peu Jacques, c'est un petit peu en général ennuyeux quand il y a les flingues, les poursuites, etc., etc. Les Américains font ça mille fois mieux que nous. Et moi j'ai voulu faire une série humaine, à la fois profonde et drôle. Et c'est pour ça que j'ai l'ADN de Marlowe, c'est d'avoir toujours de très grands acteurs face à Corinne. Le pilote, Gérard Depardieu m'a fait l'amitié de venir. Là, je viens de terminer un épisode avec Isabelle Adjani, un autre avec Jeanne Balibar. Voilà, vous voyez, la semaine dernière avec Cadmerad, avec Joël Star, avec Marina Hans. Voilà, si vous voulez, l'ADN de Marlowe, c'est pas un polar habituel. C'est là le rapport de ce personnage incroyable qu'est Corinne Maziero, qui par ailleurs une grande actrice, mais avec beaucoup d'inventivité et vraiment sortie, si j'ose dire, vraiment du terrain, elle, parce que elle était sûrement comme
elle est sortie du terrain, elle est sortie même de la rue, il faut dire les choses.
Ben oui,
José Dayan, et du coup on se dit que c'est une version, alors c'est toujours compliqué de faire des parallèles, mais ça ressemble un peu à Maigret, parce que donc il n'y a pas vraiment de il y a pas de violence au sens où on peut en trouver dans les séries américaines. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des rapports humains, il y a une peinture sociale de la France.
Oui, ça c'est très important pour moi, qu'il y ait ce rapport humain, parce que pourquoi je fais ce métier? Parce que j'aime les acteurs et les actrices, donc si c'est juste pour faire des poursuites, ça ne m'intéresse pas. C'est voir des échanges, si vous voulez.
Voilà. Donc vous aimez Jacques Weber, qui a joué d'ailleurs avec vous?
Mais j'aime beaucoup Jacques Weber, je trouve que c'est un très grand acteur, je vais même vous faire un aveu. J'ai horreur de me lever tôt le matin, je ne suis pas le spécialiste de Victor Hugo, et si je suis venu ce matin, c'est pour avoir le plaisir de le voir à nouveau.
Ah
voilà.
Ben, ça me fait plaisir.
On va quand même écouter votre Victor Hugo, Les Misérables, ici une scène de repas chez les Thénardier. On se souvient tous de la série que vous aviez réalisée, José Dayan, c'était en 2000.
Qu'est-ce que t'as laissé traîner l'oreille, toi? Ça t'intéresse, nos affaires? Va donc plutôt puiser de l'eau à la source, au lieu de te gaver.
Oh non, madame, pas à la source. C'est noir, j'ai peur là-bas toute seule.
Tu préfères aller cueillir des orties pour que je te frotte avec?
Ils sont comment ces dents à Cosette?
Pourquoi?
Ah, parce qu'il y a une roulotte sur la place. On est italien, ils achètent les dents. Ils achètent un bon prix, 4 francs la dent.
J'ai pas compté comme elle va dedans, ça bouge de crapaud. Mais ça apporterait bien au moins dans les 100 francs.
Bien, Éponine, bien. Ça sera comme ton père, tu auras le sens du commerce.
En plus, sans ses dents, la Cosette, elle mangerait moins de pain.
Moi, je vais m'en occuper de les lui arracher. Hein.
C'est terrible comment on peut réentendre ça et être à nouveau ému, José Dayan.
Mais oui, parce que Les Misérables, c'est une aventure extraordinaire. Moi, quand, en fait, on m'a demandé de faire Les Misérables à la suite du Monte Cristo que j'avais fait avec Gérard et qui avait eu un succès, alors, honnêtement, planétaire.
Gérard, quoi. C'est Gérard Depardieu.
Oui, Gérard Depardieu, bien sûr, dans Monte Cristo. De... Bon, ouais, bon, bref. Et donc, on a fait Les Misérables et, avec un casting aussi absolument hallucinant. Et c'est une aventure formidable pour un metteur en scène de pouvoir pénétrer comme ça dans l'univers d'Hugo, que je connaissais bien évidemment, mais pas aussi bien que Jacques Weber. D'ailleurs, c'est très difficile d'être aussi impliqué par la littérature et la politique que Jacques Weber. Voilà. Mais
on va lui donner la parole. Mais vous, José Dayan, juste sur vos Misérables, comment vous avez décidé, parce que c'est aussi une responsabilité écrasante, j'imagine, quand on vous dit vous allez tourner Les Misérables.
Ouais. Comment j'ai décidé quoi?
Et là, quels sont les partis pris que vous avez adoptés pour faire ces Misérables, José Dayan?
J'ai d'abord adopté le parti pris d'essayer d'être assez fidèle tout de même à Victor Hugo, parce que j'ai horreur des œuvres finalement qui sont toujours revisitées et en général moins bien visitées qu'elles ne l'étaient au départ. Voilà, Hugo c'est un grand auteur. On a demandé à Didier Decoin d'en faire l'adaptation. Il l'a faite, je crois, avec beaucoup de talent, parce qu'il en a. Et on a fait un casting absolument hallucinant, très inattendu, parce que Thénardier c'était quand même Clavier, et au départ c'était pas évident que ce soit Clavier. Je trouve qu'il était merveilleux là-dedans. Et Asia Argento, enfin bon, Charlotte Gainsbourg, Gérard bien sûr, et John Malkovich. Et moi, ce qui m'a intéressé, en tout cas dans mon regard de metteur en scène qui aime la fiction, c'est le rapport évidemment entre Javert et entre Jean Valjean.
Entre le policier.
Oui, Javert, donc, qui était interprété par Malkovich et Jean Valjean, par Gérard Depardieu, et qui était un rapport amour-haine, si vous voulez, avec presque une fascination de Javert, obsessionnelle pour le personnage de Jean Valjean. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai traité.
Jacques Weber, votre vision des Misérables.
La vision du film de
Non, vos Misérables à vous.
Ah oui. Non, mais moi, ce que je...
Votre Hugo personnel.
Ce qui me semble, d'abord, c'est que, à partir du moment où on prend son téléphone et qu'on dit, allô, Gérard Depardieu, est-ce que vous voulez jouer Jean Valjean? Il n'y a plus de problème. Les choses se font d'elles-mêmes et toutes seules, et il embarque derrière lui une quantité de gens magnifiques, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans Les Misérables, il n'y a pas qu'un rôle qui est celui de Valjean. Tous les rôles sont absolument sublimes, sont à prendre. Il y a un texte merveilleux sur la brume des petites gens qui sont absolument dépeints d'une façon magnifique. Et c'est toute une population qui est là. La population dominante, la population dominée, et puis ce héros, ce pauvre vieux cœur tout neuf, il avait le cœur plein, quand il sort du bagne, il avait le cœur plein de virginité, c'est magnifique. Et cœur plein de virginité, à partir de là, je trouve que c'est des petites phrases qui vous donnent le là pour créer, pour travailler, pour ouvrir. Un acteur, finalement, son génie, c'est d'avoir le cœur plein de virginité. C'est le cas de notre grand ami, mais c'est vrai.
Mais absolument.
C'est ça.
C'est indispensable.
Et puis alors, lui, en plus, non, parce que moi, je me souviens, Les Misérables, fallait voir les gens qui y avaient autour. C'est comme dans Balzac, quand Madame Jeanne Moreau débarque, enfin, on s'arrête tous, quoi. C'est,
ouais, ouais.
Ou Charlotte Gainsbourg qui débarque dans Les Misérables. Enfin, ce sont des gens énormes, considérables. Il y a plus qu'à mettre bien sa caméra, et ça, je vous dis, c'est le faire.
Oui, mais puis, en plus, je tiens quand même à dire, rendons à César ce qui est à César. Un, c'est Gérard qui m'a choisi pour faire Monte Cristo, voilà. Mais deux, dans Les Misérables, c'est moi qui ai fait le casting.
Ouais, bah c'est voilà. C'est sublime. Ouais,
alors Monte Cristo, parce que ça, c'est une passion commune pour tous les deux, vous appréciez.
Alors, il a joué.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle. Mais d'abord, votre Monte Cristo, José Dayan.
Oui, mon Monte Cristo.
Qu'est-ce qui l'a aussi...
Il était flamboyant. Grâce à Gérard, qui était merveilleux, qui était dans une espèce d'énergie, le désir de le faire. Et vous savez, ce qui est très important dans notre métier, c'est le désir. Voilà. Et il voulait vraiment faire ça. Et on est parti dans cette aventure avec une énergie folle et un bonheur.
Je vais dire quelque chose face à Jacques Weber, parce que généralement, justement, les acteurs, on dit souvent qu'un acteur n'a pas beaucoup de personnalité qui s'efface derrière son rôle. Et d'ailleurs, bien souvent, interviewer les acteurs, c'est compliqué, sauf Jacques Weber, sauf Gérard Depardieu. Interviewer Jacques Weber, c'est facile, puisqu'il a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la personnalité des acteurs, José Dayan?
Moi, je vais vous dire, j'aime les acteurs, j'aime les actrices. Imaginez que je sois sculpteur et que je déteste le marbre et la pierre et la terre. Ce serait catastrophique. Moi, je pense qu'avec le métier que je fais, la chance que j'ai, c'est de pouvoir être ami et avec certains acteurs ou certaines actrices que j'admire et qui me fascinent, parce que, vous voyez, j'ai fait à peu près 150 films. Il y a tout de même, au fond des grands acteurs, un mystère que j'ai pas encore réussi à percer, donc j'attends de le percer un jour, peut-être.
Ouais. Vous avez été actrice aussi?
Jamais de la vie, je suis pas.
Vous actrice. Avez joué?
Non, mais ça c'est pas pareil. J'ai trop de respect pour les acteurs, je ne peux pas être actrice. Si vous voulez, j'ai joué deux fois dans ma vie. J'ai joué une fois parce que il y a un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Edouard Baird, qui a insisté de façon lourde, alors Dieu sait qu'il est léger, pour que je joue dans son film À quoi bon. Et je me suis dit à un moment donné, bon, écoute, on va, ok, si ça l'amuse vraiment, je vais le faire. Et puis il y a un autre metteur en scène, le grand metteur en scène qui est Roman Polanski, qui lui alors a insisté très très lourdement pour que je sois dans son dernier film. Je lui ai expliqué que j'étais pas actrice, il m'a dit qu'il me voulait, qu'il savait ce qu'il voulait. Je lui ai dit, si vous voulez, tant pis pour vous si c'est mauvais. Et moi, c'est une expérience finalement que je pouvais pas refuser, être auprès de lui pendant 10 jours, et c'était plutôt une aventure personnelle. Je ne suis pas actrice.
Et vous aussi, vous êtes...
Donc j'ai fait, moi, Monte Cristo, hein, avec Denis de la Patellière, mais bien avant. C'était une adaptation extrêmement fidèle, alors qui ne bougeait pas d'un millimètre. Mais c'est très drôle, parce que autant Gérard a été vers une solarité, moi j'étais vraiment vers l'obscur, vers une mort, une sorte de fantôme. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'existait plus à partir du moment où il était sorti de chez Faria. Et que petit à petit, il se transformait malgré lui en type aussi abominable au fond que ceux contre lesquels il se vengeait. En tout cas, c'était le petit chien très vague que je pouvais avoir pour travailler. Mais je me souviens, moi, j'avais une silhouette très noire, très blanche, enfin, un peu d'ailleurs dans une tradition Monte Cristo. Il y a 49 versions, je crois.
Moi, je me souviens de vous dans ce Monte Cristo et votre vision. Et plus juste, plus proche, si vous voulez, mm-hmm. du livre de Dumas. Et puis vous aviez cette beauté romantique, romanesque, voilà, vous ressembliez à Laurence Olivier. Enfin bon, tout ça, je m'en souviens très bien. Simplement, nous, on a fait une adaptation, en effet, beaucoup plus solaire, et puis surtout avec des libertés qu'a prises Didier
Decoing. Le mariage de Monte Cristo, par exemple.
Scénariste. Hein? Didier Decoing, le scénariste.
Didier Decoing, oui, le scénariste, oui.
Juste préciser ça. Jacques Weber, dans L'entrée des mots, le livre où vous racontez certains de vos souvenirs, justement, vous expliquez l'importance qu'a eu Dumas pour vous, l'auteur, auteur qui compte.
Oui, je crois dans que Cator, comme beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, on le classe dans les Lagardes et Michard et dans les livres pour enfants. Or, moi, j'ai envie de relire maintenant Monte Cristo et Hugo et tous ces grands auteurs. C'est absolument considérable. Dumas est aussi important que des monuments comme Tolstoï ou des choses comme ça. Je le crois vraiment, c'est considérable. C'est tout à fait considérable. Dans le goût qu'on peut avoir, dans la ludicité qu'il nous propose dans le rapport avec la lecture, que dans ce qui est dit, dans ce qui est dénoncé.
Alors, par exemple, dans L'entrée des mots, Jacques Weber, vous évoquez la manière dont celui-ci interpelle le lecteur, dont il l'attrape, dont il lui tient la main.
Ah oui, c'est extraordinaire, cette liberté qu'il a. Mais alors, cher lecteur, vous voyez, il prend une distance d'un seul coup, comme s'il s'amusait avec lui. Je trouve ça d'une audace absolument
formidable. Vérité, comme dans José d'ailleurs.
Justement parce que, actuellement, énormément de choses sont dites sur les séries. Il y a une vraie mode des séries, José Dayan. Le fait que l'on ait cette mode-là avec, il y a quelques siècles maintenant, quelques décennies plus exactement, également des séries, des feuilletons qui étaient publiés. Balzac, je sais que c'est un autre auteur qui vous est cher. Est-ce que ça n'est pas une nouvelle manière de raconter des histoires? Est-ce que finalement, ça n'est pas ce que...
Mais oui, forcément. Bien évidemment, avec les moyens d'aujourd'hui, et à la fois, c'est assez miraculeux que ça existe à nouveau, parce qu'il y a une telle rapidité, ce zapping permanent, ces réseaux sociaux, etc. Ça, eh bien, quand il y a des séries qui marchent, on s'aperçoit que les gens restent accrochés et qu'il y a finalement quelque chose de concret, qu'on est moins dans l'abstrait, quoi.
On est moins dans l'abstrait, mais il y a toujours la question de raconter des histoires, cet appétit pour les histoires. Lorsque vous avez fait Monte Cristo, par exemple, vous aviez en tête qu'est-ce qui vous a animé dans cette série que vous avez tournée?
Qu'est-ce que j'avais en tête? J'avais en tête de filmer Monte Cristo le mieux possible, avec la possibilité d'avoir un casting hallucinant, et puis surtout que quand Gérard m'a appelé en me disant je veux que ce soit toi qui réalise Monte Cristo, j'avais en tête que c'était j'étais monté au ciel, voilà, et que c'est une aventure unique, une rencontre unique dans ma vie. Je remercierai jamais assez. Voilà.
Une rencontre unique, d'autres
artistique et humaine.
Lorsque vous rencontrez un texte, Jacques Weber, j'ai dit que vous aviez une passion pour un certain nombre de littérateurs. On a parlé d'Hugo, on a parlé de Maupassant, on a parlé de Dumas, Dostoïevski aussi, et je crois un auteur que vous affectionnez.
Là, particulièrement, c'était une commande qu'on m'a faite de me demander les livres qui m'avaient marqué. Donc je me suis dit, pour trouver une légère légitimité à parler longuement, par écrit, non pas par oral, de si grandes auteurs. Je citais tout à l'heure Tolstoï, je me vois pas faire 50 pages sur Guerre et Paix, je veux dire, c'est pas ma compétence du tout. Par contre, j'ai une petite expérience originale, c'est que j'ai joué Raskolnikov, j'ai joué Bellamy, j'ai joué Monte Cristo, j'ai lu Duras en scène, j'ai joué Malcolm Lowry sur scène, etc. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant.
Malcolm Lowry, au-dessus du volcan.
Ouais, ça, moi, c'est ce que j'aimerais un jour jouer ça. C'est une...
Pourquoi?
Je pense que c'est un
Qu'est-ce que ça raconte?
C'est un des moments les plus désespérés. C'est un type qui a été nommé ambassade au Mexique, qui a été mis de côté, qui a été mis au placard après un incident qui lui est arrivé durant la guerre et qui sa femme le quitte et il part dans l'alcool le plus fou, particulièrement le mezcal, qui est un alcool mortel. Et là, on a une phrase qui n'en finit pas de finir, qui est une espèce de délire poétique, désespéré, qui, moi, m'a toujours, toujours absolument bouleversé. Et alors, ça revient à notre sujet. Au début, je n'arrivais pas à lire ce livre qu'on me conseillait. Je passais pas les 100 pages. Et vous savez ce qui m'a touché complètement? C'est un film. Un film dont les Malcolm Lowrystes disaient « Oh, c'est pas terrible ». Ben oui, mais Albert Finney, immense acteur, qui joue l'ambassadeur, et d'un seul coup, je dis « Oh !» Et bam, je deviens fou. Et là, j'arrive à passer les 100 pages. Donc, c'est important. Il y a aussi relais Absolument. Entre la littérature Absolument. Et les grandes. Et je suis sûr que des gens qui voient Les Misérables, les Balzac, toi, je suis certain qu'il y a un réflexe le lendemain.
Ah, mais attendez, il y a eu des ventes de livres incroyables après Les Misérables, après Monte Cristo, après Balzac et après Les Rois Maudits. Il y a une réédition aussi. Enfin, je veux dire, c'est vrai, ça incite.
Justement, on va écouter un extrait de vos Rois Maudits, José Dayan. Un extrait.
Ah oui, les Rois Maudits aussi. Oh là là.
Les Rois Maudits, on les écoute.
Sous le règne de Philippe le Bel, le roi de fer, la France était grande et le peuple malheureux. Pour ce prince calme et cruel, tout devait s'incliner.
Messire de Molay, le royaume est dans le besoin de trouver une année de finances. Notre sire le roi apprécierait que le temple lui en fît l'avance.
Si désireux que je sois, sire, de vous obliger, je crains que nous ne puissions.
Et pourquoi donc, Molay?
Parce que nous doutons du remboursement de notre créance.
Qui a-t-on entendu, José Dayan?
Gérard Depardieu, Jean-Claude Drouot. La voix de Gérard, c'est unique, parce qu'il a à la fois cette douceur, cette façon de prononcer les mots, cette intelligence, et cette émotion, en fait. C'est un immense acteur, quoi. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, je suis ému dès que j'entends. Donc,
c'est fou.
Ouais. Les Rois Maudits, c'était une aventure extraordinaire, et avec Jeanne Moreau dans Mao d'Artois, qui était unique. Et on parlait comme ça là tout à l'heure, en entendant Jacques Weber. Moi, j'adore Dostoïevski, et j'espère que je ferai un jour un film tiré d'un des livres de Dostoïevski.
Quel livre?
Oh, mais pas mal, je ne sais pas. Moi, L'idiot, je pense que je ne le ferai pas. Parce que je voulais le faire à l'époque avec Guillaume Depardieu et Asia Argento. Hélas, Guillaume étant parti, je ne vois pas pourquoi je le ferais avec quelqu'un d'autre.
Et vous, Jacques Weber, si vous aviez la possibilité de jouer un personnage ou d'adapter...
Moi, je dis toujours qu'il y a le personnage, mais la personne avec qui vous le faites. C'est très important. Si vous êtes conduit par un... grand, c'est pas intéressant. Bien évidemment, on parlait, et José a une très belle idée à propos du roi Lear. Je souhaite vraiment... Moi, j'aimerais le faire au théâtre, mais je souhaite que Gérard un jour le fasse à l'écran avec...
Je voudrais le faire avec Gérard.
Roi Lear, je pense que, j'arrive à l'âge où on se dit, j'ai encore la force pour le jouer.
Ben oui.
Et j'ai l'âge un peu qui part en vadrouille pour le jouer aussi, voilà.
Vous avez encore beaucoup de force et on le voit avec Hugo au bistrot jusqu'au 10 juin, Jacques Weber et l'entrée des mots. Merci également à vous, José Dayan. Ben, on retrouve votre série, par exemple, Capitaine Marlowe.
Eh ben, demain soir, à 20h50 sur la 3, tant qu'à faire, faisons un peu de promo. Voilà une rediffusion du Capitaine Marlowe qui s'appelle Brouillard, on t'a l'assaut. Voilà.